Monsieur Roland, je propose, si vous voulez, faire un petit point, puis après, on finira avec monsieur Jean-Yves Bonnet, voilà, de France 3 Bretagne.
Non, mais ça va. Bonjour, bonjour à tous. Juste un petit rappel pour l'AUB, donc l'AUB Santé, qui est une fondation à but non lucratif, dont la mission est de compléter l'offre de soins proposée par le centre hospitalier, par les centres hospitaliers de la région. Donc la mission de cette contribution à l'offre de soins se traduit par ce que l'on a souvent résumé dans nos 4 P. Les 4 P, c'est la personnalisation de la prise en charge, la proximité et la prise en charge globale. Donc la personnalisation de la prise en charge, c'est d'essayer, en fonction de l'état de santé de chaque personne, de proposer une solution qui tient aussi compte de la qualité de vie possible à proposer. La proximité, c'est le déploiement, c'est un maillage géographique que l'on a pu, au fil des années, mettre en œuvre. Et puis la prise en charge globale, c'est aussi ce que nous avons essayé de proposer au fil du temps, c'est-à-dire la prise en charge des soins, mais aussi une prise en charge sociale et une prise en charge diététique, comme il vous a été exposé sur la prise en charge pré-suppléance tout à l'heure. Donc c'est effectivement aussi une préoccupation de l'ensemble des établissements. Alors l'actualité a été relativement stable en 2019 pour les établissements de l'AUB. Le déploiement de l'offre de soins, je la résume un peu au niveau géographique, c'est-à-dire nous avons un développement continu des prises en charge sur le bassin de Lannion. Donc la pertinence de cette offre de soins, dont on pouvait s'interroger il y a une quinzaine d'années sur la nécessité ou pas d'implanter un centre de dialyse sur Lannion, aujourd'hui ne se discute plus. Alors c'est dû à l'implication forte des médecins, donc qui ont accepté notamment le docteur Baluta, qui au fil des semaines exerce sur cette unité, mais aussi avec le concours des médecins hospitaliers, qui nous aide régulièrement et qui nous aide également sur Saint-Brieuc à assurer la couverture des soins. Donc sur Lannion, donc une forte population prise en charge. Sur l'unité de Bégard, qui continue à remplir avec une ouverture le lundi, mercredi, vendredi, matin et après-midi, avec deux séries d'autodialyse. L'unité de Saint-Brieuc, donc là une unité complémentaire du centre hospitalier sur la zone de la Bauchée, avec là tous les horaires possibles, et notamment la nuit, mais on va y revenir, je pense, sur un petit focus sur cette dialyse de nuit. L'unité de Saint-Alban, qui historiquement, alors Saint-Alban, on fête cette année, je crois, les 30 ans de cette ouverture, donc c'est une unité qui a répondu aussi à l'évolution des besoins. Nous avons l'unité de Dinan, donc une unité de Dinan qui propose aussi des solutions importantes de prise en charge avec des horaires sur une couverture assez importante sur Dinan. Cette unité est gérée médicalement par l'équipe de Saint-Malo. Nous avons l'unité de l'Oudéac qui, de la même manière, est ouverte à la population de ce bassin, gérée par l'équipe médicale de Pontivy. Donc un petit retour sur la dialyse. Et puis l'unité de Paimpol. Alors l'unité de Paimpol, c'est probablement l'actualité 2020, puisque nous sommes avec le centre hospitalier de Paimpol et le centre hospitalier de Saint-Brieuc, dans un projet d'améliorer la relocalisation de cette unité, qui a fonctionné pour l'AUB dans un bâtiment qui n'existe plus. Et donc nous sommes en repli sur le centre hospitalier de Paimpol, dans des conditions qui ne sont pas extraordinaires, parce que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a accepté de nous accueillir sur les jours de non-fonctionnement pour l'unité hospitalière, mais les marges de manœuvre en termes d'horaire sont limitées et le fonctionnement n'est pas le plus satisfaisant possible. Donc, un projet de relocalisation dans une partie libérée par le centre hospitalier de Paimpol, et ça va être un projet collectif avec le centre hospitalier de Saint-Louis. Alors, l'unité de nuit, c'est vous avez évoqué le film projeté à Guingamp. Nous mettons l'accent sur cette offre qui n'est pas simple à organiser. La délice de nuit est très peu proposée en France. Dans notre région, on a la chance que cette unité de dialyse la propose sur l'ensemble du territoire, dont Saint-Brieuc, donc avec aujourd'hui 8 personnes qui en bénéficient. Donc les projets sont probablement une deuxième série, donc une deuxième possibilité d'ouverture le mardi, jeudi, dimanche. On pense que les plus-values de cette offre de soins sont assez démontrées.
Vous pouvez les détailler rapidement.
Ben, non, je pense que je passe le relais.
En effet, les dialyses longues de nuit ont bien été démontrées qu'elles étaient bénéfiques à la fois sur le contrôle tensionnel, sur le risque cardiovasculaire. On a vu, puisque je rebondis sur le diaporama, que la deuxième cause infectieuse, mais la première, c'est quand même les causes cardiovasculaires de décès. Et bien la dialyse longue de nuit apporte vraiment un bénéfice par rapport à ce risque cardiovasculaire, du fait du meilleur contrôle tensionnel, du fait qu'on épure de manière douce et lente, sans à-coups tensionnels, les toxines, on enlève l'excès d'eau et de sel de manière lente. Donc tout ça apporte clairement un bénéfice sur l'état de santé du patient qui bénéficie de cette dialyse longue de nuit, donc cardiovasculaire, sur la qualité de vie. Malgré tout, il y a pas mal d'études qui ont montré aussi que d'être, bon, étonnamment, alors c'est un choix, hein, évidemment, il faut être prêt à assumer cette dialyse longue de nuit, mais les gens en retirent un bénéfice sur leur capacité d'effort, d'activité physique dans la journée et dans le délai entre deux séances de dialyse. Ça permet également de mieux préserver la fonction rénale résiduelle, c'est-à-dire la quantité d'urine que vous avez. Donc on sait très bien que cette dialyse aussi permet de préserver encore un petit peu plus longtemps cette quantité d'urine qui est précieuse, puisqu'elle vous permet de pouvoir boire un petit peu plus et d'avoir un régime peut-être moins restrictif. Donc, entre autres, mais c'est évident que si on est prêt à faire ça, c'est un type de dialyse qui est extrêmement avantageux pour vous, sur le plan de votre santé.
Merci. Et puis, donc, toutes les méthodes de domicile, les prises en charge à domicile, qui, sur le territoire, nous avons probablement des orientations conformes aux statistiques nationales, mais probablement qu'on a aussi la possibilité de développer cette offre, donc avec peut-être des équipes mobiles pour le domicile. C'est donc hémodialyse à domicile. Il y avait eu une présentation il y a quelques années d'une personne qui est toujours à domicile avec les nouveaux cycleurs d'hémodialyse, et puis la dialyse péritonéale qui a été évoquée tout à l'heure également. Donc il y a toutes ces solutions qui sont proposées. Alors le défi des prochaines années pour le centre hospitalier, pour l'AUV, c'est de maintenir cette offre de soins. Rien n'est jamais acquis, parce que l'organisation de ces unités de petite taille nécessite la pugnacité et l'implication de tous les personnels. C'est-à-dire que le fonctionnement à distance n'est pas ce qui prédomine dans le système de santé français. On est dans un système centralisé qui centralise de plus en plus les prises en charge. Tout le défi, c'est nous qui avons été pionniers pour l'insuffisance rénale, donc les centres hospitaliers et les établissements de dialyse associatifs, pour faire de la proximité, ça n'est jamais acquis. Donc on va devoir essayer de transmettre cette pugnacité à ceux qui vont devoir continuer à la maintenir, mais je tiens à souligner tout cet effort de tous les personnels. Alors là, puisque j'ai le micro, je remercie les équipes médicales qui mettent en œuvre ces projets et puis qui les assurent. Hein, donc j'ai cité le docteur Valuta tout à l'heure, mais bon, c'est l'ensemble de l'équipe. Et puis les soignants. Alors il y a Lucie qui est dans la salle aussi aujourd'hui. Donc c'est notre infirmière qui coordonne l'organisation des soins, qui avait la lourde mission de prendre le relais de Thérèse, hein, que vous connaissez, et qui est avec nous aujourd'hui. Et puis Armelle, qui est une infirmière qui nous accompagne depuis longtemps et qui a permis aussi cette prise en charge de proximité, cette personnalisation des soins. Donc c'est ce qu'il y a de remarquable dans cette prise en charge, c'est-à-dire que là, elle exerce ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire la capacité de pouvoir travailler seule et d'apporter aussi ce côté sécuritaire et cette convivialité. Vous savez que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà connu. Et puis, remercier aussi l'ensemble de l'association de France Rhin et puis les patients qui nous accordent leur confiance pour leur prise en charge. Donc, à votre disposition, s'il y a des questions.
Est-ce que l'existence de l'AUB est due à une carence de l'hôpital ?
Non, pas du tout. Je pense que c'était il y a 50 ans à peu près, puisqu'on va fêter nos 50 ans l'année prochaine, pas en 2020, mais en 2021. Donc il y a 50 ans, c'était une création commune, puisque les centres hospitaliers étaient à la jeunesse de la fondation des établissements associatifs pour essayer de faire. La mission de l'hôpital n'était pas de développer une activité hors les murs à ce moment-là. Donc je pense que c'était tout à fait complémentaire et ça le demeure. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, chacun apporte ses capacités et on est meilleur à deux que seul. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de carence. Je pense pas que ce soit le. D'ailleurs, vous êtes sur un territoire où le centre hospitalier, par la télémédecine, a été pionnière aussi, et puis a fait fonctionner des unités à Guingamp, Paimpol et Lannion. Donc, on est tout à fait complémentaires. Alors, nos établissements exercent des missions de service public. L'AUB, c'est le service public, exerce des missions de service public. Ça a été reconnu sur les dernières lois hospitalières, où les missions sont exactement les mêmes. Et le caractère de fondation de l'AUB apporte cette pérennité, cette reconnaissance par l'État des missions, à but non lucratif.
Alors l'AUB, c'est la Bretagne.
Oui.
Est-ce qu'il y a en France des associations comparables ?
Oui, l'ensemble du territoire est couvert, alors pas tout à fait de la même manière et pas tout à fait avec les mêmes organisations. Certains établissements sont ou départementales, certaines exercent sur plusieurs régions, c'est le cas un peu dans l'Ouest, c'est-à-dire que l'AUB a aussi une activité en Normandie. A contrario, nos collègues des Pays de Loire interviennent dans le sud du Morbihan. Je pense qu'il n'y a pas de propriété territoriale, les acteurs les plus pertinents à un moment et toujours pour exercer. Il n'y a pas de droit du sol, Mais le dispositif, j'espère qu'il évoluera de la même manière, c'est-à-dire que dans cette complémentarité, et on est meilleur à deux que seul. Je pense qu'il faut absolument essayer de conserver un modèle qui, on évoque les 50 ans, fonctionne. Et ça a permis, je pense, un déploiement correct de l'ensemble des modalités possibles. Et on peut toujours améliorer. Je vous ai évoqué le domicile. Je pense que l'un des enjeux sera le domicile. C'est-à-dire comment on peut améliorer une prise en charge qui n'a pas beaucoup évolué depuis des années. C'est-à-dire on l'avait évoqué pour les cycleurs d'hémodialyse, qui sont beaucoup plus simples, effectivement, à apprendre que les générateurs conventionnels. Mais je pense qu'on peut aussi apporter. Si nous avions investi autant pour le domicile que pour les structures de dialyse, l'offre serait un peu modifiée.
Justement, par rapport au domicile, moi je suis infirmière à domicile, je découvre un petit peu la dialyse via mes patients et mon grand-père qui maintenant est dialysé. C'est vrai que le mot dialyse en tant que professionnel de santé fait un petit peu peur au niveau de la sécurité du patient et tout ça. Alors je sais qu'il existe des formations, mais je trouve que c'est quelque chose sur lequel on ne nous communique pas beaucoup. Et je pense que s'il y avait un petit peu plus de communication, alors je ne juge personne, ce serait peut-être plus facile déjà psychologiquement d'aborder le fait que la dialyse à domicile peut être prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, qu'elles soient les médecins traitants ou les infirmières à domicile, et pour aider les patients Alors, je sais qu'il y a des patients qui font leur dialyse péritonéale seuls sous couvert d'une infirmière, mais je parlais avec Alain, le cadre de l'AUB de Lannion. Je vais passer une après-midi la semaine prochaine pour connaître la dialyse, parce que je n'ai jamais vu ça dans mes études ou ma carrière. Et je trouve que ce serait intéressant de un petit peu, comment dire, pas, c'est peut-être un gros mot de dire dédramatiser, mais qu'on soit plus serein aussi par rapport à tout ça, quoi. Et je ne sais pas quels sont vos moyens de communiquer par rapport au cabinet libéraux.
Je mettrai juste une réponse partielle, mais ça commence très tôt, je pense, cette information-là, et notamment lorsqu'on fait des cours aux écoles d'infirmières. Enfin, moi, je m'initie ici depuis j'y suis. Eh bien, c'est déjà là que le message doit passer. C'est-à-dire, en effet, bien expliquer ce que c'est, commencer à informer, dédramatiser complètement. C'est là où on voit aussi les idées reçues, les croyances dans ces amphithéâtres de jeunes infirmiers et infirmières. On voit déjà en effet qu'il y a du travail déjà à ce niveau-là.
C'est vrai que dans la partie des cours de néphro, c'était quelque chose de minime.
Exactement.
Je ne sais même pas si ça a duré un quart d'heure qu'on parle de.
Mais je pense que les plus anciens néphrologues n'étaient pas convaincus de l'intérêt de ces techniques au domicile. Et je pense que les jeunes générations ont beaucoup plus. Donc forcément, quand on est soi-même convaincu, on convainc plus facilement les autres.
Oui, pour la pédagogie et pour la sécurité, vous avez eu une partie de la réponse dans ce que vous avez cité, c'est-à-dire que les personnes en dialyse majoritairement assurent seules avec l'aide d'un accompagnant non spécialisé, donc leur séance de la dialyse péritonéale notamment. Donc effectivement, ils conviennent de le dédramatiser. On évoquait tout à l'heure la capacité pour une infirmière de travailler seule à distance avec 5 à 6 patients. Ça démontre, et en sécurité, parce que le recul de 50 ans nous le démontre. Il y a certainement cette pédagogie à faire. Et si nous voulons assurer le développement de cette offre de soins à domicile, je suis convaincu effectivement qu'elle pourra représenter une part. Ça restera pas, évidemment que ça ne sera pas majoritaire aujourd'hui et demain, mais on peut certainement faire mieux que 5, 10% ou 15% des patients aujourd'hui.
C'est vrai que tous les patients pour les dialyser, c'est pour les patients.
Si, vous avez une porte là.
Le problème péritonéal, c'est de stocker le matériel.
C'est sûr, mais là aussi. C'est aussi la capacité des établissements, nous, à modifier les rythmes de livraison, à essayer de trouver des solutions. Donc, c'est à nous aussi d'accompagner.
Oui. Y a-t-il une différence importante de coût entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale à domicile?
Il y a des différences de coût. Il y a des différences de coûts, mais globalement, cette notion économique sera de toute façon mise sur la table dans l'année qui va venir ou dans les deux prochaines années, parce que l'insuffisance rénale est la spécialité qui va expérimenter le financement au parcours. Donc on va probablement, pour le parcours dialyse, avoir un financement qui sera modifié par rapport à aujourd'hui et on va essayer de déterminer les coûts. On voit bien de toute façon qu'on a un équilibre à trouver entre toutes les méthodes, mais ne considérons surtout pas la dialyse péritonéale comme la dialyse du pauvre et que nous ne mettons pas de moyens pour développer cette méthode. Elle est aujourd'hui équivalente probablement, si tous les coûts sont mis. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est probablement le transport. C'est une technique de domicile, vous n'avez pas les X% de frais de transport pour venir à un centre de dialyse. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on n'apporte pas les mêmes moyens dans la prise en charge. Vous voyez, la dialyse de nuit, l'hémodialyse de nuit longue nocturne est une technique qui est plus coûteuse si on ne raisonne que sur comptablement qu'une hémodialyse de jour, puisque le personnel travaille 12 heures, un peu plus, par rapport à un personnel qui sera 7 heures pour une séance de dialyse, 6 heures ou 7 heures. Donc, et pour autant, le remboursement est le même. il appartient aux établissements d'équilibrer globalement les méthodes de dialyse. Et je pense que ce sera l'avenir du financement, viendra de cette manière.
Mais socialement parlant, la dialyse péritonéale faite de nuit à domicile, oui, permet aux gens de continuer à travailler, à vivre, oui, normalement. Par rapport à l'hémodialyse en milieu hospitalier, qui empêche les gens de travailler, d'aller travailler.
Oui, c'était
donc, socialement parlant.
Alors après, il y a des déclinaisons quand même. Oui. Y a pas, on peut encore avoir une activité avec, par exemple, des dialyses semi-nocturnes, oui, ou ça peut être des dialyses de soirée, donc, ah, qui, oui, permet encore, sans que ce soit la dialyse longue de nuit. Et puis après, il y a des aménagements du temps de travail qui peuvent aussi voilà, faire en sorte que même en dialyse de jour, on peut quand même encore avoir une activité professionnelle.
Oui, c'est suffisamment... c'est pas trop épuisant pour que les gens soient pas contraints.
Ça dépend du métier, travailler. Mais en effet, oui, oui.
Moi, j'ai fait les deux et ça se passait très bien.
Je suis désolée, je vais couper un petit peu.
On imagine une dialyse de soirée aussi à Lannion, pour effectivement étendre les possibilités, parce qu'effectivement, il ne faut pas se limiter à un lieu pour faire une méthode de dialyse. C'est-à-dire que l'ambition est effectivement de pouvoir le déployer en proximité.
Peut-être faire une info sur la dialyse la prochaine fois.
Merci.
Merci, merci M. Roland. Et puis, je tenais à vous faire part que... Lors de notre visite à Lannion, 100% des patients étaient très satisfaits des équipes et tout ça. Donc c'est quand même
merci à vous.
Important à, voilà, de remercier les professionnels aussi.
Merci.
Voilà. Merci.